Chapitre 2. La lecture du chapitre 23 du Lévitique nous montre que, de même que la Pâque parlait prophétiquement de la mort de Christ, la Pentecôte annonçait la venue de l'Esprit dans la puissance duquel une offrande de gâteau nouvelle était présentée à Dieu. Deux pains, des premiers fruits, des croyants tirés tant d'entre les Juifs que d'entre les gentils, sanctifiés par le Saint-Esprit. Et comme ce que la Pâque préfigurait a eu lieu le jour même de la Pâque, c'est le jour de la Pentecôte qui a vu la réalisation de ce que la Pentecôte signifiait. Sur Jésus, l'Esprit est descendu comme une colombe. Sur les disciples, il est venu comme le son d'un souffle violent et impétueux, et comme des langues divisées de feu. Le vent, perceptible à l'oreille, évoque ce que le Seigneur lui-même a fait et dont il nous est parlé en Jean 20, verset 22. Il souffla en eux. Les langues de feu faisaient appel aux yeux et étaient absolument uniques. Le vent remplit tout. Les langues se posèrent sur chacun. Nous pouvons lier au premier la puissance intérieure et au second l'expression de la puissance dans ces autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Lorsque Jésus était ici-bas, on pouvait l'entendre, le voir et le toucher, voir 1 Jean 1, verset 1. Lorsque l'Esprit vint, on l'entendit et on le vit, mais sous cette forme mystérieuse. Il est important de faire d'emblée la distinction entre, d'une part, le grand fait de la présence de l'Esprit et, d'autre part, les signes et manifestations de sa présence qui sont très variés. Le premier est le don effectif de l'Esprit auquel il est fait allusion en Jean 7, verset 39 et 14, verset 16. Il est vrai que, comme il ne s'agissait ici que de Juifs, il y a eu une autre occasion, outre celle-ci, où l'Esprit a été répandu sur les gentils croyants, au chapitre 10, verset 45. Venu ainsi, l'Esprit demeure avec les saints pendant toute cette dispensation. Suite à ce don de l'Esprit, ils en furent tous remplis. L'Esprit avait ainsi le plein contrôle de chacun d'eux. Il faut également distinguer entre le don de l'Esprit et le fait d'être rempli de l'Esprit, puisqu'il est possible de posséder le premier sans avoir le second, comme nous le verrons plus loin. Ici, nous trouvons les deux ensemble. Ceux sur qui l'Esprit descendit étaient des gens qui priaient, imitant en cela leur Seigneur. Ils étaient aussi tous d'un commun accord, et par conséquent, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Ce lieu n'est pas spécifié. Ce peut très bien avoir été la chambre haute du chapitre 1, mais il est plus vraisemblable qu'il s'agissait d'une cour du temple, telle le portique de Salomon, vu que les foules entendirent ce que l'Esprit donnait d'énoncer. Quoi qu'il en soit, c'était quelque chose de réel et puissant qui ne pouvait demeurer caché. Dans une sphère limitée, c'était l'inverse de ce qui s'était produit à Babel. Là, ce que l'homme, dans son orgueil, bâtissait, avait été arrêté par la confusion des langues. Ici, Dieu signalait le début de l'édifice spirituel qu'il construisait en donnant aux hommes la maîtrise des langues et en soumettant celles-ci à un ordre. Un autre contraste apparaît dans le fait que lors de la construction du tabernacle dans le désert, quand l'Éternel prit possession de son habitation par la nuée de sa présence, il commença aussitôt à parler à Moïse au sujet des sacrifices. La liaison entre Exode 40, verset 35 et Lévitique 1, verset 1 et 2 le montre. Dans notre chapitre, Dieu prend possession de sa nouvelle maison spirituelle par l'Esprit et de nouveau, tout de suite, il parle par ses apôtres inspirés. De grandes foules de différents pays entendent les choses magnifiques de Dieu. La perplexité des auditeurs fournit l'occasion de rendre témoignage. Pierre est le porte-parole des onze qui sont là pour confirmer ce qu'il dit. Et il commence par leur citer le passage qui donne l'explication de tout ce qui s'est passé. Joël avait annoncé que l'Esprit serait répandu sur toute chair au dernier jour, et ce qui venait de se produire n'en était qu'un accomplissement, et non pas l'accomplissement. L'expression dont Pierre se sert, « c'est ici ce qui a été dit », implique que ce qui avait eu lieu était de la même nature que l'événement annoncé par Joël, mais n'était pas nécessairement la réalisation pleine et complète que la prophétie avait en vue. Jean le baptiseur avait dit de Jésus « Celui-là baptise de l'Esprit-Saint » Jean 1, verset 33. Joël avait annoncé que l'Esprit serait répandu sur toute chair après la repentance d'Israël et la destruction de leurs ennemis. Le jour de la Pentecôte, il y en eut une sorte de prémisse quand l'Esprit fut répandu sur ceux qui constituaient le noyau de l'Église. Telle était la véritable explication de ce qui s'était produit. Les apôtres n'étaient pas pleins de vin doux, mais remplis de l'Esprit. Pierre ne s'arrête toutefois pas là. Il va montrer pourquoi ce baptême de l'Esprit a eu lieu. Il venait directement de Jésus, exalté maintenant à la droite de Dieu. Nous le verrons au verset 33, mais dès le verset 22, Pierre replace en pensée ses auditeurs devant les scènes de la crucifixion, de la résurrection et de l'exaltation du Seigneur. Jésus le Nazaréen avait été, de manière très manifeste, approuvé de Dieu pendant les jours de son ministère, et pourtant il l'avait fait périr par la main d'hommes iniques. Il avait été livré par le conseil défini et par la préconnaissance de Dieu, car Dieu sait tourner la colère de l'homme à sa louange et la faire accomplir ses desseins de bénédiction. Mais cela ne diminue en rien la responsabilité de l'homme. Le verset 23 montre clairement que la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme ne sont pas en opposition pour ce qui en est des résultats pratiques, même si, en théorie, nous avons de la peine à les concilier. Ce qu'ils ont fait, dans leur méchanceté, Dieu l'a anéanti en triomphe. L'opposition entre leurs plans et ceux de Dieu était complète. Cela annonçait leur défaite et leur rejet total le moment venu, d'autant plus que la résurrection avait été prévue par Dieu et prédite par David dans le psaume 16. Or, David ne peut pas avoir dit cela de lui-même, car il a été enseveli, et à cette époque, l'emplacement de son sépulcre était bien connu de tous. C'est de Christ qu'il parle lorsqu'il dit que son âme n'a pas été laissée en Hadès et que sa chair n'a pas vu la corruption. Et cela a eu son accomplissement. Non seulement Jésus a été ressuscité, mais il a été élevé dans le ciel. Comme homme exalté, Jésus a reçu de la part du Père l'Esprit Saint promis et l'a répandu sur ses disciples. À son baptême, il a reçu l'Esprit Saint pour lui-même, comme homme dépendant. Il reçoit maintenant ce même Esprit Saint pour d'autres, comme étant leur représentant. Lorsque cet Esprit fut répandu, ces autres furent baptisés en un seul corps et furent constitués ses membres. Nous l'apprenons ailleurs. Dans les versets 34 à 36, Pierre fait un pas de plus dans son argumentation et la porte à son point culminant. David avait annoncé prophétiquement que son Seigneur serait exalté à la droite de Dieu. David lui-même n'était pas monté dans les cieux. Il n'était pas plus ressuscité d'entre les morts. Celui dont il parlait devait occuper le siège de l'administration et de la puissance jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds. D'où la conclusion qui s'impose, ce qu'ils avaient vu et entendu, l'Esprit répandu, prouve sans doute possible que Dieu a fait et Seigneur et Christ ce Jésus qui avait été crucifié. Comme Seigneur, il est le grand administrateur pour Dieu, soit en bénédiction, soit en jugement. Le fait de répandre l'Esprit était un acte administratif qui a révélé qu'il était le Seigneur. En tant que Christ, il est le chef, oin, de toute chose, et en particulier de la petite poignée des siens laissée sur la terre. Le fait que pour eux il a reçu du Père l'Esprit avant de le répandre a manifesté qu'il était le Christ. S'il a été fait Seigneur et Christ, cela n'implique nullement qu'il n'ait pas été l'un et l'autre pendant qu'il était ici-bas. Il a toujours été Seigneur et Christ, mais maintenant, comme homme exalté et glorifié, il était établi officiellement en tant que tel. Quelle nouvelle merveilleuse pour nous, mais combien terrible pour ceux qui s'étaient rendus coupables de sa crucifixion. Elle ne faisait que confirmer leur condamnation s'ils persistaient dans leur voie. L'esprit qui vient de descendre sur les disciples se met maintenant à travailler la conscience de nombreux auditeurs. Commençant à réaliser la situation désespérée dans laquelle la résurrection du Seigneur les a placés, ils sont saisis dans leur cœur et réclament du secours. Pierre indique la repentance et le baptême au nom de Jésus-Christ comme étant le chemin pour la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit. Et au verset 39, il montre que la promesse de Joël s'adresse aux Israélites repentants, à leurs enfants et aussi à tous ceux qui sont loin, les gentils. Ainsi, l'extension des bénédictions de l'Évangile aux gentils est présentée dans le premier sermon chrétien. La rémission des péchés et le don de l'Esprit englobent toutes les bénédictions chrétiennes. Il est frappant que Pierre ne mentionne pas la foi. Mais celle-ci est comprise, car celui qui ne croyait pas au Seigneur Jésus ne serait jamais soumis au baptême en son nom. La signification du baptême, c'est la mort, et par conséquent, la rupture avec la vie et les relations anciennes. Or, personne n'aurait voulu rompre ses liens avec son ancien genre de vie s'il n'avait pas une foi réelle en celui qui était le Seigneur de la vie nouvelle. Par plusieurs autres paroles, Pierre les conjurait et les exhortait à briser leurs liens et à se sauver ainsi de cette génération perverse. Il y avait de la foi, puisqu'environ 3000 personnes reçurent les paroles de Pierre. Une heure auparavant, elles avaient le cœur saisi d'angoisse et tourmenté. Maintenant, elles reçoivent l'Évangile et rompent leur lien avec le passé par le baptême. S'étant ainsi séparées de leur nation coupable dans son ensemble d'avoir crucifié son Seigneur, elles viennent s'ajouter aux 120 du début, dont le nombre se trouve de ce fait multiplié par 26 en un jour. De plus, elles ne s'arrêtent pas à ce premier pas, mais elles sont caractérisées par la persévérance. Les quatre traits qui sont attribués à ces croyants au verset 42 valent la peine d'être relevés. Ils persévéraient d'abord dans la doctrine ou l'enseignement des apôtres. C'est la base de tout. Les apôtres étaient ceux à qui le Seigneur avait dit « Quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean 16, verset 13. Leur doctrine était par conséquent le fruit de la direction de l'Esprit. L'Église existait maintenant, et elle avait pour première caractéristique sa soumission aux enseignements de l'Esprit par les apôtres. L'Église n'enseigne pas, elle est enseignée, et est soumise à la parole donnée par l'Esprit. Ils persévéraient non seulement dans la doctrine des apôtres, mais aussi dans la communion des apôtres. Leur vie pratique et communautaire était ancrée dans la compagnie des apôtres. Auparavant, ils avaient tout en commun avec le monde. Maintenant, leur communion avec le monde a pris fin. Elle a été remplacée par la communion avec le cercle des apôtres, et la communion apostolique est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1, verset 3. Ils persévéraient également dans la fraction du pain, le signe de la mort de leur Seigneur, et aussi, comme nous l'apprenons par 1 Corinthiens 10, verset 17, une expression de communion. Ils avaient ainsi constamment devant eux la mort de leur Seigneur et étaient préservés de retourner à leurs anciennes associations. Enfin, ils persévéraient dans les prières. Ils n'avaient pas de puissance en eux-mêmes. Celle-ci venait tout entière de leur Seigneur dans la gloire et de l'Esprit qui leur avait été donné. Aussi, une dépendance continuelle de Dieu était-elle nécessaire pour le maintien de leur vie et de leur témoignage spirituel. Ces traits distinguaient l'Église primitive, et ils devraient caractériser l'Église aujourd'hui. Les points mentionnés dans les derniers versets du chapitre n'ont pas un caractère aussi permanent. Les apôtres, et avec eux les prodiges et les miracles, ont disparu. La vie communautaire chrétienne, telle qu'elle était pratiquée au début, a également cessé d'exister. De même que la persévérance d'un commun accord dans le temple et la jouissance de la faveur de tout le peuple. Cependant, c'était Dieu qui dirigeait tout. La vente de leurs biens entraîna une grande pauvreté parmi les saints lors de la famine qui survint quelques années plus tard. Elle devint l'occasion de ce ministère d'assistance de la part des assemblées d'entre les nations, voir Actes 11, versets 27 à 30, qui a contribué dans une si large mesure à unir les Juifs et les gentils dans l'Église de Dieu. Pour le moment, il y avait simplicité, joie et unité de cœur, accompagnée de beaucoup de louanges montant à Dieu. Et le travail de Dieu, qui consistait à ajouter à l'Église le résidu croyant, se poursuivait.